Bonjour à chacun. Après ce temps de louange et d'adoration, vient le temps d'enseignement et j'espère que vraiment le Seigneur va nous parler ce matin encore et va nous enseigner. Voilà une lettre envoyée au ministère de la Défense par un homme qui souhaitait être démobilisé. Alors pour autant que je le sache, cette lettre est vraie, elle a vraiment été envoyée. Alors je vais vous demander un peu d'attention parce que c'est, vous allez comprendre, un peu compliqué. Monsieur le ministre de la Défense nationale, permettez-moi de prendre la respectueuse liberté de vous exposer ce qui suit et de solliciter de votre bienveillance l'appui nécessaire pour obtenir une démobilisation rapide. Et c'est là que ça se complique. Je suis sursitaire, âgé de 24 ans et je suis marié. Alors c'est pas moi, hein, d'accord. Et je suis marié à une veuve de 44 ans, laquelle a une fille qui en a 25. Mon père a épousé cette fille. À 7 heures, mon père est donc devenu mon gendre, puisqu'il a épousé ma fille. De ce fait, ma belle-fille est devenue ma belle-mère, puisqu'elle est la femme de mon père. Ma femme et moi avons eu en janvier dernier, et là c'est encore plus compliqué, un fils. Cet enfant est donc devenu le frère de la femme de mon père, donc le beau-frère de mon père. En conséquence, mon oncle, puisqu'il est le frère de ma belle-mère. Mon fils est donc mon oncle. La femme de mon père a eu à Noël un garçon, qui est à la fois mon frère, puisque le fils de mon père, et mon petit-fils, puisque le fils de la fille de ma femme. Je suis ainsi le frère de mon petit-fils, et comme le mari de la mère d'une personne est le père de celle-ci, il s'avère que je suis le père de ma femme et le frère de mon fils. Je suis donc mon propre grand-père. De ce fait, monsieur le ministre, ayez l'obligeance de bien vouloir me renvoyer dans mes foyers, car la loi interdit que le père, le fils et le petit-fils soient mobilisés en même temps. Dans la croyance de votre compréhension, veuillez recevoir, monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Je ne sais pas s'il a été démobilisé, ce pauvre homme, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait vraiment une situation familiale compliquée, complexe et bien embrouillée, le pauvre. Très loin d'être simple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le nombre de familles décomposées, recomposées, à nouveau décomposées, les vies familiales dans notre pays en France sont souvent bien embrouillées, bien compliquées, bien complexes. Et tisser les liens familiaux entre chacun, parfois ça s'avère vraiment compliqué. On pourrait croire que ce type de famille compliquée, complexe, où les liens familiaux sont difficiles à apercevoir, est récent, très récent. Mais en fait, quand on tourne les pages de notre Bible, dès les premières pages, on voit que les vies familiales des patriarches de la Genèse était loin de la simplicité originelle, voulue par Dieu en Genèse 2:24, un homme, une femme, unis pour toute la vie, avec leurs enfants pour un temps. Donc cette simplicité originale n'a malheureusement pas été le vécu de beaucoup de patriarches dans la Genèse. Et ainsi même Abraham, le père de la foi, a eu une vie familiale bien compliqué et bien embrouillé à un moment donné. Au début, lorsque Dieu l'a appelé à quitter Haran pour rejoindre Canaan, sa vie familiale était très simple. Il n'était que deux, Abraham, Sarah, qui avaient respectivement 75 ans et 66 ans. C'est important pour la suite, les âges. Cet appel de Dieu à Abraham était lié à une promesse, celle de faire naître d'Abraham un grand peuple. Genèse 12, verset 2. Naître d'Abraham un grand peuple. Autrement dit, Dieu a fait à Abraham la promesse d'un fils pour avoir une descendance. Mais il y a un problème pour accomplir cette promesse. Et le texte de la Genèse nous le dit très rapidement, dès la présentation du couple Abraham et Sarah. En Genèse 11, verset 30, à peine Sarah est nommée, qu'il est dit à son propos qu'elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Dieu fait cette promesse d'une descendance. Face à cette promesse, la situation familiale d'Abraham et de Sarah, très simple au départ, va beaucoup se compliquer et s'embrouiller. Une autre femme va entrer dans l'histoire de ce couple. Il s'agit de Hagar, puis deux enfants, Ismaël et Isaac. Comment en est-on arrivé là? Et qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre à travers ce pan de vie d'Abraham? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de réfléchir, de méditer ce matin et auxquelles je vous propose de trouver quelques leçons que Dieu veut nous apporter à travers ce texte. On va lire deux textes ce matin, un premier dans Genèse 16, qui qui évoque la naissance d'Ismaël et un autre dans Genèse 21 qui évoque la naissance d'Isaac. Et vous allez voir que finalement, ces deux textes sont un découpage qui sont vraiment assez symétriques. Et je vous propose donc d'abord de commencer par Genèse 16, où on va voir la solution humaine bricolée avec la naissance d'Ismaël. Et par la suite, en Genèse 21, on verra la solution magistrale, divine, à travers la naissance d'Isaac. Donc Genèse 16, versets 1 à 16. Sarai, l'épouse d'Abraham. Alors, je parlerai toujours d'Abraham et de Sarah. Au début, c'est vrai qu'il s'appelait Sarai, ensuite Abraham au début, vous ne m'en voudrez pas. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à maîtriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra les compter. » Puis il ajouta, « Voici que tu attends un enfant, ce soit un garçon. Tu appelleras Ismaël, Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en butte à l'opposition de tous. Mais il l'assurera sa place, en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atai El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachai-Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appelait Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Ça fait donc maintenant 10 ans que Dieu a donné cette promesse à Abraham d'une descendance au moment de Genèse 16. Et toujours rien. Rien à venir dans la vie d'Abraham et de Sarah. Les années passent, Abraham et Sarah doutent peu à peu de la réalisation de cette promesse. Auparavant déjà, Abraham avait fait part de ses doutes à Dieu. En Genèse 15, verset 2, il dit « C'est Éliézer de Damas, un de ses parents, qui va hériter de ses biens, puisqu'il n'a pas d'enfant, pas de fils. » Abraham et Sarah doutent de la réalisation de cette promesse. Ils n'y croient plus, jusqu'à ce que tout à coup, Sarah ait une idée. Donner sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant par son entremise. Agar, elle, était une Égyptienne qui est sans doute devenue la servante de Sarah durant le court séjour qu'Abraham et Sarah ont passé en Égypte. On voit ça dans Genèse 12. Donc cette femme, en tant que servante de Sarah, Sarah a voulu la donner à son mari, à Abraham, pour qu'elle ait un enfant par son entremise. Alors cette proposition de Sarah qui peut nous sembler vraiment étrange et bizarre à notre époque est finalement quelque chose qui n'avait pas forcément quelque chose d'exceptionnel à l'époque d'Abraham et Sarah. Ainsi, elle est conforme au code d'Hammurabi. Alors ce code, c'est un texte juridique babylonien qui date de cette époque, qui a été retrouvé par les archéologues, où on parle justement de cette façon de faire. On a aussi retrouvé un contrat de mariage de l'époque comportant une clause où le mari s'engage par contrat à ne pas répudier sa femme, et où la femme, elle, s'engage de son côté à donner des enfants à son mari et, en cas de défaillance de sa part, à fournir une esclave qui lui permettra d'avoir un héritier par procuration. Ce type de contrat garantissait pour la femme, pour l'épouse, de ne pas perdre son statut de femme mariée, en cas de stérilité, bien sûr. Cette solution implique 3 personnes, mais en fait, la troisième est plus considérée comme un objet que comme une personne, comme on va le voir. D'abord, Sarah. Sarah, une femme affligée et incrédule. C'est Sarah qui est à l'origine de cette proposition. Et derrière cette proposition, on peut tout de même ressentir de la douleur. Sa proposition n'était sans doute pas facile à faire. Elle aurait préféré que les choses se passent naturellement, normalement, sans difficulté. Et cette démarche doit être douloureuse d'autant plus, car en la menant, elle fait quelque part le deuil de la maternité. Et ça doit être dur, difficile pour elle de faire ce deuil. Elle traduit aussi de l'incrédulité. Pour Sarah, le responsable de son problème, c'est Dieu. Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. C'est l'Éternel qui m'a empêché. C'est la faute de Dieu. Et comme Dieu n'agit pas, alors je vais agir. Comme Dieu ne fait rien, alors moi, j'ai la bonne idée pour que ça marche. C'est le sentiment de Sarah à ce moment-là. Abraham, lui, deuxième personne, qui croit bien faire peut-être, mais qui est impatient aussi. Sarah fait la proposition à Abraham, qu'il accepte. En acceptant cette proposition, Abraham a sans doute cru bien faire. Vis-à-vis du contexte, je rappelle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui, dans leur contexte culturel, pouvait se comprendre. Mais après tout, la promesse de Dieu en Genèse 12, quand on regarde bien, ne mentionnait pas clairement Sarah. Elle mentionnait Abraham, mais pas forcément clairement Sarah, en tout cas, pas en Genèse 12. Même si cela pouvait sembler logique. De plus, ce n'était pas Abraham qui a pris l'initiative de cette idée, il n'a pas humilié Sarah ainsi. Mais dans tous les cas, Abraham a manqué de patience pour attendre la réalisation de cette promesse, parce qu'il a lui aussi dans son esprit voulu aider Dieu pour accomplir cette promesse. Et la troisième personne, c'est Agar, qu'on pourrait qualifier dans nos termes modernes aujourd'hui de mère porteuse. C'est la mère porteuse. Des trois parties concernées dans ce contrat, instituant Agar comme mère porteuse, c'est peut-être la plus innocente quelque part. Une esclave n'avait guère le droit à la parole. On ne lui a pas demandé son avis. Et le fait d'avoir été choisie par Sarah comme mère porteuse pour son fils, pour le fils de Sarah finalement, prouve qu'elle était sans doute digne de confiance pour Sarah. Au verset 3, c'est intéressant de voir comment c'est écrit. Sarah prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham. Comme si on donnait un objet. Je te prends, je te donne. Agar n'est pas du tout considérée comme une personne. Dans l'esprit de Sarah, dans l'esprit d'Abraham, c'est un objet pour réussir la promesse. Ce n'est qu'un corps aux yeux de Sarah et d'Abraham. Abraham et Sarah vont donc au bout de leur idée. Ils veulent peut-être bien faire, mais les faiblesses de cette solution bricolée apparaissent très clairement par la suite. Ces faiblesses sont liées d'abord au statut de Agar. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas qu'un corps, c'est une personne. C'est quelqu'un qui a une âme aussi, un esprit. On peut remarquer que Dieu, lui, ne donne pas d'appréciation sur ce geste, sur cet acte. Ni approbateur, ni désapprobateur. Même si les conséquences de l'acte ont en tout cas montré que c'était une erreur de la part d'Abraham et Sarah. Ce qui devait arriver arrive, et Agar tombe enceinte. Et à partir de ce moment-là, tout va se compliquer dans le foyer. Tout va s'embrouiller. Parce qu'Agar change de statut. Elle était l'esclave de Sarah. Elle devient la concubine d'Abraham, enceinte, qui a son fils, son héritier. En élevant ainsi Agar, Sarah a ouvert la porte à la catastrophe. Car en voyant qu'elle était enceinte, Agar va commencer à la mépriser, à la toiser. Littéralement, il est écrit, sa maîtresse fut légère de peu de valeur aux yeux d'Agar. Agar, qui était considérée comme un objet, la situation se tourne. Elle voit maintenant sa maîtresse comme peu de valeur. Moi, j'ai l'hérité, toi finalement. Agar est un peu inconsciente pour se dresser en tout cas contre une femme, contre Sarah, dont le mari est amoureux. Devant le comportement de sa servante, Sarah se retourne contre Abraham pour l'accuser en lui disant, au verset 5, « C'est toi qui es responsable de l'injure. » Après avoir accusé Dieu, elle accuse son mari, Abraham, d'être responsable de la situation. Comme si elle était totalement innocente de ce contexte qu'elle vit. D'ailleurs, après avoir accusé Dieu, au début, maintenant elle l'invoque de façon péremptoire en disant que l'Éternel soit juge. Alors qu'elle avait deux versets avant, elle l'accusait d'être responsable de la situation. Face à la colère de Sarah, Abraham décide de la laisser agir à sa guise, et ce n'est pas beau à voir. Proverbe 27, verset 15, décrit bien Sarah à ce moment-là. Attention pour toutes les femmes querelleuses. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'escalade de la rancœur dans le cœur de Sarah est telle qu'elle est dure. Elle la maltraite jour après jour, tout le temps, tout le temps. Elle lui empoisonne la vie. Au point que la seule solution qu'Agar puisse trouver, c'est la fuite. Un geste désespéré. Elle fuit alors dans le désert alors qu'elle est enceinte. Heureusement pour Agar, Dieu va la rattraper. Dans le désert, près d'une source d'eau, l'ange de l'Éternel la retrouve. Il interpelle Agar. C'est presque un contrôle de police. D'où viens-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et il finit, cet ange de l'Éternel, par lui donner un ordre ferme. Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi, au verset 9. Normalement, c'est peut-être pas comme ça qu'on aurait agi. Quand quelqu'un fugue, on va peut-être le chercher, lui dire « Reviens à la maison, ça se passera bien, t'auras des bonbons, la télé, le machin, tout se passera bien, on t'en voudra plus. » Non, quand Dieu intervient dans la vie d'Agar pour lui dire « Retourne à la maison », il lui dit « Retourne à la maison et humilie-toi. » Parce qu'il fallait que Agar se rende compte que son geste, son mépris pour Sarah était une mauvaise chose. Elle devait se rendre compte, Agar, que la seule solution viable pour elle, ce n'était pas la rébellion, la fuite, parce qu'elle allait mourir seule et enceinte dans ce désert. Mais elle devait se rendre compte que de son erreur, qu'elle avait fait une erreur en méprisant Sarah, et devait être capable maintenant de reconnaître cette erreur et de se repentir par rapport à cela. Mais l'ange de l'Éternel n'en reste pas là. Il ne donne pas simplement un jugement par rapport à cette situation. Il va plus loin. Il fait une promesse personnelle à Agar. Il lui dit « Tu vas avoir un fils ». Agar avait été utilisée comme un simple objet. Abraham et Sarah la considéraient comme un objet, comme un corps. L'ange de l'Éternel, lui, la considère comme une vraie personne digne d'une promesse personnelle pour elle, pour un fils, Ismaël. Agar a pu expérimenter la compassion de Dieu et le fait que Dieu s'est soucié d'elle. Il a vu sa douleur, il a entendu son cri. Au verset 11, il est écrit « Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. » L'Éternel t'a entendu, il s'est soucié de toi. Face aux paroles de l'ange de l'Éternel, Agar ne discute pas. Et elle fait aussitôt demi-tour et retourne sur ses pas pour revenir vers Abraham et Sarah. Ce chapitre s'achève dans les deux derniers versets avec la naissance d'Ismaël, 11 ans après la promesse faite à Abraham par Dieu, Ismaël naît. Mais la situation est très très loin d'être pacifiée. Le fait que Sarah, qui selon la procédure aurait dû être la mère d'Ismaël, ne soit même pas mentionnée, le montre bien. Verset 15, Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. C'est Agar qui donne le fils. Sarah n'est même pas mentionnée. Alors que c'était elle, selon les procédures, selon la coutume, qui devait être la mère. 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu va à nouveau apparaître à Abraham, en Genèse 17, pour lui indiquer que sa promesse ne s'est pas réalisée à travers la naissance d'Ismaël, mais que c'est bel et bien Sarah qui lui donnera l'héritier de la promesse. Dieu reprécise les choses, au cas où Abraham n'aurait toujours pas compris. Et face à cette promesse, Abraham et Sarah vont avoir exactement la même réaction. On retrouve dans Genèse 17, verset 17 pour Abraham et en 18, verset 12 pour Sarah. Ils vont rire, un rire d'incrédulité. Et c'est ce rire qui est à l'origine du nom d'Isaac, qui signifie « il a ri ». Le rire d'incrédulité va se transformer en rire joyeux avec la naissance du fils de la promesse, la naissance d'Isaac. Je vous propose maintenant de lire Genèse 21. On va retrouver un peu le même découpage qu'en Genèse 16. Genèse 21, verset 1, jusqu'au verset 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac. Il a ri. Il le circoncit à l'âge de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Et Sarah dit alors, « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on recevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu seras suscité une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de Dieu, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon, là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur de l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Sarah donne enfin un fils à Abraham. Abraham a 100 ans, Sarah 91, au moment de la naissance d'Isaac. Ils ont attendu 25 ans avant que la promesse de l'Éternel se réalise dans leur vie. 25 années d'attente. Il y a 25 ans, nous étions en 1988. Certains parmi nous n'ont peut-être même pas connu ces années-là. Moi, j'avais une dizaine d'années, j'avais 10 ans d'ailleurs. 10 ans. Est-ce que vous pourriez vous souvenir d'une chose aujourd'hui qui vous est arrivée en 1988? 25 ans d'attente. 25 ans d'attente. Ça semble tellement loin, 1988. À moins que vous soyez né à ce moment-là. Donc là, vous pouvez vous en souvenir, enfin vous souvenir, savoir que vous êtes né. La promesse de Dieu se réalise en tout cas enfin dans la vie d'Abraham et de Sarah. Et la fierté et la joie de Sarah sont palpables à ce moment-là. À travers la naissance d'Isaac, Dieu a vaincu non seulement la stérilité de Sarah, mais il a démontré de façon évidente sa toute-puissance en lui donnant un enfant à un âge auquel aucune femme ne peut avoir d'enfant. Entre parenthèses, le record de notre époque appartient à une Espagnole qui a donné naissance à des jumeaux le 29 décembre 2006 à l'âge de 66 ans. Sarah avait 91 ans. Dieu apporte une solution magistrale et miraculeuse qui contraste tellement avec la solution bricolée par Abraham et Sarah en Genèse 16. C'est un exemple du contraste saisissant qui existe entre la débrouillardise humaine dont nous sommes tous capables et la grâce divine, miraculeuse, puissante. Ça nous rappelle aussi une notion importante, je pense, la notion que les enfants sont un don de Dieu aussi. On dit souvent, on entend souvent qu'on fait des enfants. Il y a une part de réalité, bien sûr, une part de vérité là-dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. Nos enfants sont aussi des dons de Dieu. Alors je vous l'accorde, dans la famille Kaufmann, parfois, je me demande si mes enfants sont vraiment des dons de Dieu, surtout quand ils dorment le soir. Mais ce sont des dons de Dieu, bien sûr. Et cela, c'est une leçon à nous souvenir. Quelques années plus tard, toute la famille fête le sevrage d'Isaac, qui doit avoir 2-3 ans à ce moment-là. À ce moment-là, Agar et Ismaël, qui lui doit avoir entre 16 et 17 ans, sont aussi conviés, bien sûr. Et durant cette fête, Ismaël rit. Dans le Galates 4, verset 29, Paul interprète ce rire comme une moquerie d'Ismaël aux dépens d'Isaac. Plusieurs raisons ont été évoquées par rapport à cette moquerie. Ismaël aurait été jaloux d'Isaac. Par tradition, Ismaël, en tant que fils aîné, devait avoir une position spéciale, et en voyant cette grande fête donnée en l'honneur d'Isaac, Ismaël aurait été jaloux. Peut-être Ismaël se serait moqué d'Abraham et de Sarah, devenus parents alors qu'ils étaient très âgés, soit revenait à se moquer de l'exaucement miraculeux des demandes d'Abraham, d'avoir une descendance, et donc de Dieu. D'autres disent que, fier de sa supériorité en âge et en force, Ismaël aurait tourné en ridicule ce petit enfant qui était l'héritier des promesses. Quelle que soit la raison de cette moquerie, Sarah l'a vu. Et ça, elle ne peut pas l'accepter. Agar et son fils devenaient encombrants et représentaient même une menace pour elle et son fils aux yeux de Sarah. Pendant toutes ces années, elle a ravalé son envie de mettre dehors Agar et Ismaël. Mais là, c'en est trop pour elle. Elle a enfin trouvé une raison de les faire s'en aller. Et lorsqu'elle en fait part à Abraham, celui-ci hésite. Abraham est contrarié. Il aime son fils. De plus, ce que Sarah suggère est contraire aux traditions de l'époque. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne pour faire comprendre à Abraham que le conseil de Sarah était en accord total avec sa volonté. Et c'est seulement alors qu'il le suivra. Des années auparavant, Agar était partie seule, enceinte, dans le désert. Maintenant, elle est renvoyée de force avec son fils dans ce même désert. En pleine détresse, l'ange de l'Éternel apparaît à nouveau après avoir entendu le cri d'Ismaël. Et la manière dont chacun de ces des protagonistes évoque Ismaël dans ce texte est intéressante. Vous relirez, à aucun moment, Ismaël n'est nommé par son prénom dans ce texte. Sarah le voit comme le fils d'Agar. Ce fils, dont elle aurait dû être la mère officielle, est devenu un étranger pour elle. C'est le fils d'Agar. Abraham parle de lui comme son fils, ce qui traduit sa sollicitude. Agar, elle, l'appelle à deux reprises l'enfant. Ce n'est peut-être pas le meilleur terme pour un jeune de 16-17 ans. Je ne sais pas s'il y en a ce matin, si je vous dis les enfants. Non. L'ange de l'Éternel, lui, le nomme le garçon à trois reprises. Dieu est le plus neutre dans la manière d'évoquer Ismaël. Le regard qu'on porte sur les autres peut être un regard biaisé par l'affection ou par la haine. Dieu lui porte un regard de vérité sur chacun d'entre nous, mais sur Ismaël à cette occasion aussi. Car il voit Ismaël comme il est, un garçon fort qui deviendra une nation, qui a des promesses. Ismaël et Agar vont survivre. La Bible ne donne pas beaucoup d'informations supplémentaires sur la suite de la vie d'Ismaël. On sait qu'il vécut jusqu'à l'âge de 137 ans, qu'il eut plusieurs fils et filles, et que l'une de ses filles épousa plus tard Ésaü, un fils d'Isaac. Quel principe, quelle leçon la Bible veut nous donner à travers cette famille embrouillée, à travers ces textes? J'en ai vu cinq. D'abord, apprendre à gérer l'attente. Habacuc 2, verset 3 nous dit « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser, ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. » Abraham et Sarah n'ont pas su gérer cette attente de 25 ans. Avouons que nous avons souvent du mal à gérer des attentes qui durent bien, bien, bien moins longtemps. Moi, je l'avoue. Comment gérer l'attente de réponse pour une de nos prières? Quand est-ce qu'on doit prendre une initiative et quand doit-on attendre plus longtemps? Je crois qu'il n'y a pas forcément de réponse simple et évidente à donner, à balancer comme ça. Ça dépend bien sûr des vies et des attentes, des raisons des attentes. Mais Dieu nous appelle à chercher avec patience et prudence sa volonté. L'histoire d'un brahman, peut nous aider dans notre réflexion. Un brahman très vieux, tous les jours à son réveil, prenait son bain rituel et partait aussitôt vers le temple, son panier d'offrande à la main. Il allait assister à la prière du matin. De même, le midi et le soir, il retournait au temple. Ainsi, trois fois par jour, il rendait un culte à Dieu. Avec ferveur, il priait. « Seigneur, je viens te rendre visite chez toi sans que j'aie manqué un seul jour. Matin et soir, je te fais des offrandes. Ne peux-tu pas venir chez moi ?» Attentif à cette prière quotidienne, Dieu lui répondit enfin « Demain, je viendrai. » Tout heureux, il se mit à laver à grandes eaux sa maison. Il fit tracer devant le seuil des dessins en pâte de riz. À l'aube, il attacha une guirlande de feuilles de manguier à l'entrée de sa maison. Dans la salle de réception, des plateaux de fruits, de galettes sucrées et de fleurs s'étalaient à profusion. Tout était prêt pour recevoir Dieu. Et il se tint debout pour l'accueillir. L'heure de la prière matinale approcha. Un petit garçon qui passe par là aperçoit par la fenêtre ouverte les plateaux de galettes. Il s'approche. « Grand-père, tu as beaucoup de galettes là-dedans. Ne peux-tu pas m'en donner une ? Furieux de l'audace du gamin, il réplique « Veux-tu filer, moucheron ? Comment oses-tu demander ce qui est préparé pour Dieu ?» Et le petit garçon, effrayé, s'enfuit. La cloche du temple a sonné. La prière est terminée. Dieu viendra après le culte de midi. Attendons-le. Fatigué, il s'assoit sur le banc. Un mendiant arrive et lui demande l'aumône. Le brahmane le chasse vertement. Puis, il lave soigneusement la place souillée par les pieds du mendiant. Et midi passe. Dieu n'est toujours pas au rendez-vous. Le soir vient, tout triste. Il attend toujours la visite promise. Un pèlerin se présente à l'heure de la prière. « Permettez-moi de me reposer sur le banc et d'y dormir cette nuit. » « Jamais de la vie, c'est le siège réservé à Dieu. » La nuit est tombée, Dieu n'a pas tenu sa promesse, pense-t-il tout triste. Le lendemain, revenu au temple pour la prière, il renouvelle ses offrandes et fond en larmes. « Seigneur, tu n'es pas venu chez moi, comme tu me l'avais promis. Pourquoi ?» Et une voix lui dit alors, mais vous l'aurez compris, « Je suis venu 3 fois, et chaque fois, tu m'as chassé. » Deuxième leçon que j'ai pu voir, arrêtez de chercher un coupable. Devant cette situation compliquée, Sarah tour à tour accuse Dieu, puis son mari Abraham, d'être responsable de son malheur. Est-ce que nous ne nous retrouvons pas dans Sarah ? Quel est notre comportement dans les épreuves que nous vivons ? Je pense qu'il nous arrive malheureusement souvent à chacun d'entre nous de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers les autres pour trouver un responsable, pour trouver un coupable à nos malheurs. Pour les accuser. Mais au final, ça ne change rien à notre situation. Pour Sarah, en tout cas, cela n'a rien changé, à part augmenter sa rancœur. Au lieu de chercher un coupable à tout prix, nous avons parfois peut-être besoin de nous tourner vers nous-mêmes pour nous arrêter, donner du repos à notre âme, en vivant l'épreuve dans la paix avec ce qui nous entoure, pour autant que cela dépende de nous, et dans la foi vis-à-vis de Dieu. Cette semaine, j'avais une formation sur la communication. L'idée, c'est surtout de ne pas parler avec des préjugés, mais de parler avec des choses objectives. Et la formatrice avait une illustration que j'ai bien appréciée, bon, avec ce côté, surtout de son côté humaniste, on va dire plutôt, mais vous allez comprendre. Elle disait, on a tous en nous 2 chiens qui se cherchent des noises, qui s'embêtent. Celui des mauvaises pensées, des idées noires, et celui des idées positives, des choses bonnes. Et elle nous a posé cette question. D'après vous, c'est lequel qui gagne ? Le chien des mauvaises pensées, mauvaises idées, des idées noires, ou celui des choses plus positives ? La réponse, celui qu'on nourrit. Celui qu'on nourrit. Alors c'est très humaniste dans son esprit, mais quelque part il y a une part de vérité, je crois, biblique. Dieu nous appelle à ne pas nourrir notre aigreur, à ne pas nourrir le fait de chercher un coupable, mais plutôt à nourrir notre paix vis-à-vis de Dieu, à rechercher sa présence, à rechercher les bienfaits qu'il nous donne. Parce qu'il y a toujours un moyen de voir le verre à demi plein ou à demi vide. Regardez tout ce qu'on n'a pas, au lieu de regarder tout ce que Dieu a donné. Regardez tout ce qu'on vit de dur, au lieu de regarder les facilités que Dieu nous offre. Qui est-ce que je nourris dans mes pensées ? Attention aussi aux erreurs malencontreuses. L'initiative d'Abraham et de Sarah d'avoir un fils par l'entremise d'Agar était-elle une faute grave ? Est-ce que c'était un péché ? Je ne crois pas. Ils ont sans doute cru bien faire, quelque part, mais la suite leur a donné tort, clairement. Et aujourd'hui encore, cette erreur est à l'origine de bien des souffrances et bien des malheurs. Parce que même si les spécialistes nous disent que c'est difficile de vraiment dire que Ismaël est le fils des peuples arabes et qu'Isaac est le fils, des peuples juifs, parce qu'il y a un mélange de cultures, un mélange de nations avec les siècles qui s'est passé, symboliquement, les musulmans se réclament d'Ismaël et les juifs se réclament d'Isaac. Et symboliquement, beaucoup de malheurs font suite à cela. Des erreurs excusables, entre guillemets, comme celle d'Abraham et Sarah, qui voulaient simplement peut-être bien faire, peuvent avoir de graves conséquences. Sommes-nous toujours à l'abri de ce genre d'erreurs malencontreuses ? Espérer pouvoir toujours éviter des erreurs, je crois que c'est une illusion. On veut éviter ce type d'erreur, mais cela peut aussi nous arriver, car finalement, on ne sait pas toujours à l'avance quel est le plan de Dieu et comment Dieu va agir. Et nous pouvons, tout en croyant bien faire, nous tromper. Mais ce qui doit d'abord nous rassurer, à travers l'histoire d'Abraham et Sarah, c'est que malgré nos erreurs peut-être excusables ou malencontreuses, Dieu permet que les choses s'aplanissent. Dieu est capable d'agir et de secourir chacun. Quatrième leçon, Dieu agit justement dans ces situations embrouillées. La situation familiale d'Abraham et Sarah a été embrouillée avec pour conséquence de la jalousie, de la haine. Et voilà comment Dieu intervient au milieu de ce conflit, sans faire de reproches caractéristiques aux uns et aux autres, alors qu'il aurait pu. Mais en intervenant à des moments cruciaux, Dieu agit même au sein de cette situation compromise. Dieu agit malgré les circonstances déroutantes, déconcertantes que peuvent vivre Abraham, Sarah et Agar. Donne un coup de pouce par-ci, un coup de pouce par-là. Et surtout, malgré cette situation embrouillée, un vrai panier de crabes, Dieu accomplit son plan de salut qui doit aboutir à la venue de son Fils, Jésus-Christ. Et de la même manière, Christ n'a pas attendu que la situation soit claire pour venir, mais il est venu dans une situation bien embrouillée par le péché. Il est venu nous sauver en mourant sur la croix pour des vies embrouillées, comme nous l'a rappelé Benjamin ce matin. Nous ne devons pas croire que nous vivons des situations trop embrouillées pour lui. C'est le spécialiste de l'embrouille. Il est celui qui agit dans les situations embrouillées pour accomplir son plan et offrir le salut à chacun. Christ le dit lui-même en Marc 2, verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Christ n'est pas venu pour des gens bien ou qui croient vivre une vie bien, parfaite, mais pour des pécheurs, pour ceux qui ont des vies embrouillées par le péché. Et cinquième et dernière leçon que j'ai pu voir, et il y en a sans doute beaucoup d'autres, Dieu se préoccupe de chacun. Dans ces textes, Dieu nous montre qu'il a choisi Isaac comme seul héritier de la promesse, mais que ce n'est pas pour autant qu'il a rejeté Ismaël. Il s'est aussi préoccupé d'Ismaël et d'Agar. Bien qu'Agar et Ismaël étaient traités en paria, Dieu, lui, s'est soucié d'eux. Il est venu à leur secours par deux fois. Dieu a fait d'Ismaël un grand peuple, même si ce peuple n'est pas celui de la promesse. Et cela nous montre aussi que Dieu se préoccupe de chacun, quel que soit son passé. Je suis né dans une famille stable, aimante, fondée sur la parole. Mais j'ai eu besoin que Dieu se préoccupe de moi. Et peut-être que ce n'est pas ton cas ce matin. Peut-être que tu as vécu ou que tu vis dans une famille brisée, instable, complexe, embrouillée. Mais Dieu se préoccupe de toi de la même manière. Exactement de la même manière qu'il s'est préoccupé de moi. Notre Dieu est un Dieu qui entend les cris de désespoir, comme ceux d'Agar et d'Ismaël. Un Dieu qui entoure et console les faibles, les délaissés, pour leur manifester sa compassion. À travers ces textes, on voit en tout cas que nous avons un Dieu grandiose, un Dieu qui est capable d'agir et qui a compassion. Que cela puisse vraiment nous remplir encore ce matin pour la suite de la semaine. Amen.